enveloppés tendrement dans les bras de notre pleine conscience. Si nous lui sourions et l'étreignons avec cette énergie, nous l'aiderons à s'apaiser et se guérir. Quand nous souffrons physiquement, la pleine conscience nous aidera à percevoir qu'il ne s'agit que d'une douleur physique. Et c'est précisément grâce à cette conscience que nous pourrons nous détendre et guérir plus rapidement. Aucune distinction entre la fin et les moyens. Avec la marche en pleine conscience, nos pas ne se limitent plus à un simple moyen d'arriver à un endroit précis. Marchant en pleine conscience vers la cuisine pour nous servir un repas, nos habituelles pensées « je dois aller à la cuisine pour prendre de la nourriture » peuvent alors faire place à une toute autre phrase. « Je savoure ma marche vers la cuisine ». Chacun de nos pas devient alors le but en soi. Il n'existe plus de distinction entre la fin et les moyens. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Il n'existe pas de chemin vers l'éveil. L'éveil est le chemin. Ainsi, chaque fois que nous faisons un pas en pleine conscience, nous sommes engagés dans un acte d'éveil. Nous nous éveillons au fait que nous sommes en train de faire un pas. Chacun de nos pas peut être rempli de beauté. Laver un plat peut alors devenir un véritable acte d'éveil. Faire la vaisselle peut se transformer en un moment délicieux. Prendre soin des sensations douloureuses. Dès que nous savons comment prendre bien soin de notre corps, par l'approche de la pleine conscience, nous pouvons accéder au domaine des sensations. Méditer sur les sensations implique d'être conscient de chaque ressenti qui émerge, qu'il soit agréable, désagréable, neutre ou mixte. Mais avant de prendre soin des sensations désagréables, il est préférable d'apprendre à nous concentrer en priorité sur des sensations qui ne le sont pas. Le Bouddha nous conseille de générer les sensations de joie et de bonheur dans le but de nous nourrir avant de prendre soin de nos sensations douloureuses. À l'instar du chirurgien qui, estimant que son patient est trop faible pour subir une opération, lui recommanderait de prendre d'abord un peu de repos et de bien se nourrir afin de supporter l'intervention, nous avons besoin de renforcer nos fondations de joie et de bonheur avant de nous consacrer à notre souffrance. Nous pouvons commencer avec la joie, car joie et bonheur sont toujours disponibles dans notre conscience, sous la forme de graines. J'inspire. Je suis conscient de la sensation de joie en moi. J'expire. Je souris à la sensation de joie en moi. J'inspire. Je suis conscient de la sensation de bonheur en moi. J'expire. Je souris à la sensation de bonheur en moi. Laissez faire. Comment pouvons-nous générer les sentiments de joie et de bonheur dont nous avons besoin afin d'être assez forts pour nous occuper de notre souffrance? La première chose à faire est de relâcher, de laisser faire, car la joie prend racine dans le lâcher-prise. Supposons maintenant que nous vivions dans une grande ville, à New York ou à Paris. Nous souffrons du bruit, de la pollution et de la poussière qui partout y règne en maître. Nous rêvons de fuir à la campagne, le temps d'un week-end ou davantage, mais nous savons qu'il nous faudra peut-être une heure pour quitter la ville. Et pourtant nous y allons, car nous savons que cela en vaudra vraiment la peine. Une fois à la campagne, nous savourons l'air frais. Nous contemplons les collines, les arbres, les nuages, le ciel bleu. Nous sommes envahis d'un tel bonheur que nous oublions bien vite la ville que nous avons délaissée au profit de l'expérience d'une telle beauté. Mais nous constaterons bien vite que nous ne parvenons pas à retenir cette joie et ce bonheur éternellement. Comme nous avons certainement déjà tous pu en faire l'expérience, il est probable qu'après quelques semaines, nous aurons terriblement envie de regagner notre ville, Paris ou New York. Nous sommes très heureux les premiers jours à la campagne, mais nous n'avons pas la capacité de nourrir et d'entretenir cette joie et ce bonheur pendant très longtemps. Nous souffrons, nous ressentons une grande impatience à rentrer. Nous croyons que notre « chez-moi » est là-bas, « home sweet home ». Ainsi, quand nous rentrons dans notre ville, nous touchons à nouveau à la joie et au bonheur, car nous sommes de retour chez nous. Mais cela ne va pas durer, car le mal-être reviendra bien vite. C'est ainsi que nous faisons des allers et retours incessants. Et le phénomène est tel dans notre société moderne que, aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui possèdent une résidence secondaire, de façon à pouvoir fuir régulièrement leur situation et à y retourner ensuite. La joie et le bonheur sont de nature impermanente. Ils ont besoin d'être nourris pour durer plus longtemps. Mais si nous ne connaissons pas la manière de les alimenter, ils risquent de disparaître. Au bout de quelques temps, nous perdrons notre capacité à savourer la joie et le bonheur, alors qu'ils sont toujours là, disponibles pour nous. Cette joie et ce bonheur ont la capacité de nous nourrir, voire de nous guérir. Mais à eux seuls, ils ne sont pas assez forts pour transformer la profonde souffrance enfouie au fond de notre conscience. Sous la surface. En surface, l'océan est généralement calme, mais il masque de nombreux courants dans ses profondeurs. Si notre pratique ne nous a pas encore permis d'atteindre le bloc de souffrance transmis par nos ancêtres et par nos parents, et que nous n'avons donc pas encore pu le transformer, cette fine couche de tranquillité ne nous sera accessible que durant une période de temps limitée. De temps en temps, en effet, le bloc de souffrance enfoui émergera. Il n'est donc pas suffisant de nous accrocher à ce type de joie et de bonheur, car au bout d'un moment, nous commencerons à éprouver des difficultés, sans savoir quel est notre véritable problème, notre blessure réelle. Notre souffrance est peut-être celle de notre père, qu'il nous a légué en héritage, ou bien celle héritée de notre mère, si elle n'a pas pu la transformer. Si notre pratique reste superficielle, la tranquillité, la joie et le bonheur auxquels nous accéderons resteront superficiels eux aussi. Une telle pratique n'est donc ni assez forte, ni assez efficace pour transformer la grande souffrance enfouie à la base de notre conscience. Comme nous ne connaissons pas la nature de notre blessure, notre conscience n'est pas en mesure d'éclairer ni d'identifier sa présence cachée dans les profondeurs de notre inconscient. Et c'est ainsi que nous n'avons de cesse d'incriminer ceci ou cela comme élément responsable de notre souffrance. Nous accusons certaines personnes ou situations d'être à la source de notre malheur. Et, si nous vivons en famille ou en communauté, nous nous surprenons sans doute à penser « Ma famille ne se montre pas assez respectueuse de l'environnement » ou « Cette communauté fait encore preuve de discrimination envers les homosexuels et les lesbiennes » et ainsi de suite. La vie regorge d'exemples comme cela. de difficultés sociales. C'est pour éviter ce type d'écueil où nous accusons trop facilement les situations extérieures à nous d'être responsables de notre souffrance qu'il est essentiel que chacun, chacune, nous revenions à nous-mêmes afin de reconnaître notre propre souffrance et de l'entourer de toute notre tendresse. Mais nous devrons vraisemblablement aussi accepter que cette pratique nous apporte parfois son lot d'inconfort. Nous pouvons comparer cela au melon amer, un légume typique d'Asie. En vietnamien, amer se dit ho. Or, ho signifie aussi souffrance. Ce qui est amer est donc associé à la souffrance. Ce melon tire ainsi son nom de sa saveur. Si nous n'avons pas l'habitude de manger du melon amer, nous risquons de souffrir lorsque nous le goûterons. La médecine chinoise considère pourtant que l'amertume est bonne pour notre santé. La saveur de ce melon est certes amère, mais sa dégustation attentive pourra aussi nous en révéler toute la fraîcheur, ce qui incite d'ailleurs certaines personnes à le renommer et à l'appeler melon rafraîchissant. Ce légume est donc à la fois frais et amer, mais il est largement apprécié par ceux qui le consomment régulièrement. Nous aimons son amertume. C'est amer, mais c'est délicieux, et cela nous fait du bien. Lâcher prise. Un jour où le Bouddha était assis dans la forêt, entouré de plusieurs moines, un paysan s'approcha. Ses vaches s'étaient enfuies, et il demanda aux moines s'il les avait vues passer. Le Bouddha répondit « Non, nous n'avons pas vu passer vos vaches par ici. Vous devriez peut-être les chercher dans une autre direction. » Puis, quand le fermier fut parti, le Bouddha se tourna vers ses moines, sourit et dit « Chers amis, vous devriez être très heureux. Vous n'avez aucune vache à perdre. » Une pratique que chacun de nous peut faire consiste à prendre une feuille de papier et à y inscrire les noms de nos vaches. Ensuite, nous pourrons examiner notre situation en profondeur, afin de sentir si nous nous sentons capables d'en relâcher quelques-unes. Peut-être nous sommes-nous persuadés que ces choses étaient cruciales pour notre bien-être, mais si nous prenons la peine de regarder en profondeur, nous constaterons que certaines d'entre elles sont un obstacle à notre joie et à notre bonheur véritable. À ce propos, je me souviens d'un homme d'affaires qui était venu à une retraite en Allemagne et qui, entendant l'histoire des vaches échappées, avait éclaté de rire. Je l'invitai alors à poursuivre la retraite, mais il m'expliqua qu'il avait trop à faire. C'était un businessman. Il devait aller en Italie pour ses affaires, et il avait beaucoup de choses à régler. Alors il nous dit au revoir. Mais le jour suivant, quelle ne fut pas ma surprise de le revoir, assis parmi les autres retraitants. Il m'expliqua alors qu'il était à mi-chemin vers l'Italie quand il avait fait demi-tour. Il avait été capable de relâcher une vache à laquelle il pensait devoir s'agripper, et il en était particulièrement heureux. Pleine conscience. La première source de joie et de bonheur est le lâcher prise. Cependant, si nous nous limitions à cela, notre joie resterait superficielle et de courte durée. C'est ainsi que, grâce à la pleine conscience, nous disposons d'une deuxième source de bonheur. Supposons que nous soyons avec un groupe de personnes à contempler un lever de soleil. Si notre esprit est préoccupé par nos projets ou nos soucis, pensant au futur ou au passé, il nous est impossible d'être vraiment là pour contempler et savourer ce splendide lever de soleil, car nous manquons de pleine conscience. À l'inverse, si nous veillons à revenir en nous par la respiration consciente, pleinement présent à notre inspiration et à notre expiration, nous pouvons ramener notre esprit totalement au moment présent, nous libérant ainsi du passé, du futur et de tout projet, corps et esprit parfaitement unifiés. La pleine conscience nous permet d'être totalement présent afin d'observer, de contempler et de savourer profondément le lever de soleil qui s'offre à nous. Nous pourrions illustrer cela à l'aide d'un autre exemple. Supposons que nous recevions la visite d'un ami ou d'une amie venue de loin et que nous partagions un beau moment avec cette personne autour d'une tasse de thé. Notre pleine conscience fera de ce temps partagé avec elle un moment inoubliable, un temps où nous ne pensons à rien, où nous ne nous inquiétons ni de nos projets, ni de nos affaires, uniquement concentrés sur ce moment partagé avec notre ami. Pleinement conscients de sa présence, nous nous réjouissons de ce moment et nous goûtons au bonheur de pouvoir nous asseoir avec lui, avec elle, savourant le partage d'une tasse de thé. Dans la tradition bouddhique, il existe une petite nuance entre la joie et le bonheur. Supposons que nous traversions seuls le désert et que nous nous retrouvions à court d'eau, particulièrement assoiffés. Tout à coup, nous apercevons une oasis devant nous. Nous savons qu'il y aura des arbres et un lac dont nous pourrons boire l'eau. Cette prise de conscience nous apporte beaucoup de joie. Nous savons que nous allons enfin pouvoir nous reposer et boire. Cette sensation se nomme joie. Ensuite, lorsque nous parvenons enfin à l'oasis et que nous nous asseyons à l'ombre des arbres, que nous nous agenouillons et faisons une coupe de nos mains afin de boire l'eau tant attendue, ce à quoi nous goûtons à ce moment-là s'appelle bonheur. La joie éprouvée à la vue de l'oasis comportait donc davantage une dimension d'excitation. Joie et bonheur sont tous deux indispensables. Si nous ressentons de la souffrance pendant la méditation assise, la méditation marchée ou la relaxation totale, c'est que nous ne pratiquons peut-être pas correctement. Nous ne devrions pas souffrir à cause de la méditation. Ce n'est pas un travail pénible. Au contraire, la méditation devrait nous apporter de la joie et du bonheur comme nourriture. Avec cette joie et ce bonheur dans notre vie, nous serons alors suffisamment forts pour prendre soin des blocs de souffrance, de tristesse, voire de désespoir qui sont en nous. Tous les gestes que nous faisons au quotidien devraient nous apporter joie et bonheur, qu'il s'agisse de nous brosser les dents, de préparer notre petit déjeuner ou de nous rendre à la salle de méditation. Chaque pas, chaque respiration devrait nous combler. La vie est déjà pleine de souffrances, nul besoin d'en créer davantage. Laissez respirer le Bouddha. Il y a une dizaine d'années, j'étais à Séoul, en Corée du Sud. La police avait fait en sorte que nous puissions avoir une marche méditative en ville et avait donc dégagé la voie. Mais quand la marche a démarré, j'ai trouvé cela très difficile de marcher, car des centaines de photographes barraient la route. Il n'y avait pas du tout de passage pour marcher. J'ai dit au Bouddha, « Cher Bouddha, j'abandonne, marche pour moi. » Le Bouddha est arrivé immédiatement et il a marché. Le chemin s'est dégagé. À la suite de cette expérience, j'ai écrit une série de poèmes de pratique auxquels nous pouvons recourir en toutes circonstances et tout particulièrement quand nous nous sentons en grande difficulté pour marcher ou respirer. Je laisse respirer le Bouddha. Je laisse marcher le Bouddha. Je n'ai pas à respirer. Je n'ai pas à marcher. Le Bouddha respire. Le Bouddha marche. Je savoure la respiration. Je savoure la marche. Bouddha est la respiration. Bouddha est la marche. Je suis la respiration. Je suis la marche. Il n'y a que la respiration. Il n'y a que la marche. Il n'y a personne qui respire. Il n'y a personne qui marche. Paix en respirant. Paix en marchant. La paix est la respiration. La paix est la marche. De prime abord, nous avons sans doute la conviction qu'il doit y avoir quelqu'un pour que la respiration soit possible, qu'il doit y avoir quelqu'un pour que la marche ait lieu. En réalité, la marche et la respiration se suffisent à elles-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un marcheur. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui respire. Nous pouvons simplement prendre conscience que la marche est en cours. Observer que la respiration a lieu. Prenons l'exemple de la pluie. Nous avons l'habitude de dire que la pluie tombe. Cette expression est plutôt amusante, car si la pluie ne tombe pas, ce n'est pas de la pluie. La pluie est donc la chute elle-même. Nul besoin d'un pleuveur. Seule la pluie suffit. Il en va de même pour le vent. Quand nous disons qu'il souffle, c'est tout aussi curieux, car s'il ne soufflait pas, ce ne serait pas du vent. Nous n'avons pas besoin d'un souffleur. Pluie et vent se suffisent donc à eux-mêmes. Et c'est tout à fait pareil pour la marche. Quand je me réfère au Bouddha en train de marcher, c'est juste la marche, toute simple. Mais elle est de très haute qualité, délicieuse, en pleine conscience. Elle nous apporte en effet beaucoup de paix et de joie. Le Bouddha est précisément cette respiration-là. Il est cette marche. C'est parce qu'elle présente beaucoup de paix et de joie que l'on peut dire que c'est une marche en pleine conscience. Chapitre 5. Transformer la souffrance. Que pouvons-nous faire pour transformer les graines de souffrance parfois si profondément enracinées en nous? La pratique nous offre trois façons de les traiter. La première consiste à semer et arroser nos graines de bonheur. Dans ce cas, nous n'abordons pas directement les graines de souffrance, mais nous faisons en sorte qu'elles puissent être transformées par nos semences de bonheur. C'est une transformation indirecte. La deuxième manière de gérer notre souffrance est de cultiver la pleine conscience en permanence. Ainsi, lorsque les graines émergeront, nous serons en mesure de les identifier. Nous les baignerons alors dans la lumière de notre pleine conscience. Nos graines sont un champ d'énergie, et la pleine conscience est une formidable énergie, elle aussi. C'est ainsi que notre pleine conscience pourra transformer nos graines de souffrance, leur permettant de s'affaiblir au contact de son énergie. La troisième solution qui s'offre à nous pour prendre soin des afflictions qui nous accompagnent depuis notre plus tendre enfance est de les inviter délibérément à monter dans notre conscience mentale. Nous pouvons inviter la tristesse, le désespoir, les regrets, les désirs qu'il nous était difficile de contacter dans le passé et simplement nous asseoir pour bavarder avec eux, comme avec de vieux amis. Prenons toutefois la précaution d'allumer notre lampe de pleine conscience avant de les inviter à monter. Éveillons à ce que sa lumière soit suffisamment stable et forte. Reconnaître la souffrance. Supposons que nous pratiquions la méditation marchée pour entrer en contact avec les merveilles de la vie. Tout à coup, au cours de la marche, un souvenir de notre enfance remonte à notre esprit et les sentiments de souffrance, de peur et de désespoir refont surface. De ce fait, bien que nous marchions, nous ne parvenons plus à savourer notre marche. Nous ne sommes plus au paradis. Nous sommes en enfer, aux prises avec notre souffrance. Dans une telle situation, la première démarche à faire est de reconnaître « La souffrance est en moi ». J'inspire. Je sais que les sentiments de souffrance, de désespoir, de tristesse, de peur sont en moi. J'expire. J'ouvre les bras tendrement à cette sensation de souffrance. Avec pleine conscience et concentration, nous pouvons revenir au souvenir et comprendre ce qui l'a fait remonter. Je ressens ceci parce que j'ai été en contact avec cela. Grâce à la pleine conscience et à la concentration, nous sommes capables de répondre à cette image, comprenant à présent que nous ne sommes plus un enfant démuni. Aujourd'hui, nous sommes adultes, solides et capables de nous protéger nous-mêmes. Certains d'entre nous sont arrivés en Occident comme immigrants. Nous sommes nombreux à avoir dû abandonner l'Asie du Sud-Est, traverser les océans, comme boat people, pour nous réfugier en Occident. Au cours de ces voyages, nous étions terrorisés. À tout moment, nous aurions pu nous noyer. Nous aurions pu être tués ou blessés par des requins ou des pirates. Ceux d'entre nous qui ont fait ce voyage ont encore présentes à l'esprit les images de tous ces dangers. Désormais, nous avons atteint l'autre rive. Nous avons été acceptés comme réfugiés et nous sommes sur la terre ferme. Mais il nous arrive d'oublier que nous sommes maintenant en toute sécurité. Quand nous retouchons aux images de cette période, nous nous laissons malgré tout gagner par la souffrance qui les accompagne. Même si la souffrance appartient au passé lointain, elle a tendance à remonter chaque fois que nous sommes confrontés à ces souvenirs. Beaucoup d'entre nous restent prisonniers du monde des images, alors qu'en réalité, ce ne sont que des images. Elles ne correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui. Inspirant et expirant en pleine conscience, nous pouvons développer cette sagesse, cette vision profonde. Imaginons posséder encore une photographie de l'océan où nous avons craint de nous noyer. Quand nous regardons cette photo, nous ressentons la souffrance et la peur qui ont accompagné l'événement passé. Mais la pleine conscience et la concentration peuvent nous éclairer sur la réalité. Ceci n'est qu'une image. Ce n'est pas l'océan. Nous pouvons nous noyer dans l'océan, mais pas dans une image. Nous constatons donc qu'en prenant soin de nos formations mentales de désespoir et de souffrance, en les observant plus finement, nous percevrons clairement que ceci est né de cela. La souffrance est apparue parce que nous avons été en contact avec une image du passé. Or, aujourd'hui, nous sommes en sécurité et nous avons la capacité de jouir des merveilles de la vie dans l'instant présent. Dès lors que nous réalisons que notre souffrance est fondée sur des images du passé et n'appartient pas à la réalité actuelle, le bonheur dans l'instant présent nous est directement accessible. Et c'est précisément là que réside le merveilleux pouvoir de la pleine conscience et de la concentration. Manas. Une des raisons principales qui nous pousse à éviter le contact avec notre enfant intérieur est que nous craignons la souffrance. Cela s'explique par la présence de Manas, cette partie de notre conscience située entre la conscience du tréfonds et la conscience mentale, dont la caractéristique est de nous pousser à rechercher constamment le plaisir, évitant à tout prix la souffrance. Manas nous fait croire que nous sommes dotés d'un soi séparé, et c'est précisément avec cette illusion et la discrimination qui en découle que naît toute notre souffrance. Quand un